Vous écoutez RTL.
Emmener Benji en promenade, c'est le quotidien de Rachel. Rachel fait partie de l'association Liane. Depuis 8 ans, la structure se bat pour éviter les séparations entre l'animal domestique et son maître.
RTL.
Je me promenais avec mon chien, c'est que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
J'entends la dame qui dit à sa petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main.
La curiosité est un vilain défaut.
Et mon chien a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que la parole.
Raymond Devos, mon chien inoubliable.
C'est
Raymond
tellement
Devos.
Tellement magique, Raymond Devos.
Bonjour, Éric Baraté.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes historien spécialiste des animaux et c'est d'ailleurs le numéro, excellent numéro spécial d'Historia avec à la une des animaux et des hommes de la préhistoire à nos jours, des hommes avec un H majuscule, bien sûr, qui nous a donné envie d'en savoir plus justement sur les relations des humains avec les animaux. Alors évidemment, on a côtoyé beaucoup d'animaux, mais le chien, ça reste quand même le petit chouchou. Alors on va commencer avec lui. Quand apparaît-il dans notre vie, ce chien ?
Alors, les premières traces de domestication, c'est autour de 35 000 ans. Donc, c'est effectivement l'animal qui a le plus longtemps vécu avec nous.
Est-ce que c'est vraiment un chien ou, il y a 30 000 ans, c'est un loup plutôt ?
Alors, ce sont des loups que l'on domestique petit à petit. On ne sait pas comment se fait exactement la domestication. Sans doute, elle se fait des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut que chaque espèce ait son intérêt à la domestication. Et sans doute, les loups ou certains loups se sont aperçus qu'en se rapprochant des humains, en chassant peut-être avec eux, eh bien, ils en tiraient des avantages. Et inversement, du côté des hommes, avec des loups, ils pouvaient peut-être chasser d'une manière plus efficace.
Les premiers loups qui se rapprochent des humains, c'est quoi ? C'est un peu des charognards ? Ils récupèrent ce qui reste de la chasse ou de ce que l'homme a consommé ? On peut
sans
imaginer
doute,
ça ?
Oui, on peut imaginer ça, sans doute, qu'ils suivent les chasseurs parce qu'ensuite, ils peuvent profiter de ce qui reste. Et inversement, peut-être que les humains ont pu suivre les loups et s'entendre, par exemple, pour piéger les espèces.
Pour chasser une proie ensemble.
Pour chasser ensemble.
Ah oui.
C'est intéressant parce que le loup, aujourd'hui, enfin de moins en moins, et grâce à des émissions comme La Curiosité, a mauvaise réputation, alors qu'en fait, le loup, c'est un chien comme les autres. On peut vivre aux côtés de cet animal et on pouvait vivre avec lui.
Oui, alors le loup n'a pas eu toujours mauvaise réputation. Il a mauvaise réputation à partir de la fin du Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle. Et c'est vrai que c'est une époque où il y a des attaques de loups, par exemple, sur les humains, mais c'est dans un environnement tout à fait particulier. Mais le reste du temps, l'image du loup a été relativement bonne. Et puis de nos jours, elle s'est revalorisée avec les dessins animés, avec les bandes dessinées.
Est-ce qu'on a mangé, Éric Baraté, est-ce qu'on a mangé du chien à une époque de notre histoire ?
Beaucoup. Beaucoup de chiens, jusqu'à l'époque romaine. Ce sont les Romains qui imposent l'interdiction du chien, parce que chez les Romains, le chien est déjà un animal de compagnie privilégié.
Donc il est représenté, par exemple, dans la littérature ou dans les arts.
Oui, alors on trouve beaucoup de représentations à l'époque romaine, notamment parce qu'il se développe l'inhumation des animaux de compagnie. Et donc, on a pas mal de stèles qui représentent l'animal de compagnie, notamment des oiseaux et aussi des chiens, et qui racontent la gratitude du maître vis-à-vis de ses animaux.
Donc le chien a vraiment une place, disons qu'il devient l'animal de compagnie respecté à partir des Romains, c'est ce qu'on peut dire.
Alors c'est fluctuant. Les Romains en font un animal de compagnie très respecté, et puis ça disparaît avec les invasions barbares et avec la déchristianisation. La déchristianisation, par exemple, reprend à son compte les versets très péjoratifs que l'on a dans la Bible.
Qu'est-ce qu'on dit du chien dans la Bible,
Éric
Baraté ?
On dit que c'est un charognard, qu'il retourne à son vomi, qu'il est traître, etc.
C'est parce qu'un symbole païen, c'est ça, le chien ?
Alors, ça devient un symbole païen, et en fait, dans la Bible, on a l'image du chien errant. C'est pas du tout l'image du chien de compagnie comme à Rome. Et en fait, c'est là où la Bible retrace le mépris un peu des pasteurs nomades vis-à-vis de ces chiens errants.
Alors, moi, je me suis toujours posé la question, par exemple, nom d'un chien, bon, c'est une insulte, mais à partir de quand le mot chien est devenu un des jurons préférés des humains ?
Alors, au Moyen-Âge, justement, avec cette dévalorisation chrétienne et barbare, et à ce moment-là, le chien va devenir effectivement l'animal privilégié pour les injures.
C'est aussi une sorte d'esclave à cette époque. On a peut-être du mal à l'imaginer. Alors aujourd'hui, on a des chiens qui travaillent. Hein. Je vais penser peut-être aux chiens d'aveugle, tiens, par exemple, mais il y en a d'autres. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, les chiens, ils font quel type de travaux ?
Alors la plupart des chiens sont des chiens errants. ou des chiens vagabonds, jusqu'au 19e siècle, même début du 20e siècle. Ce sont l'essentiel des chiens. Et puis, alors, il y a des chiens qui travaillent, notamment qui gardent les maisons, par exemple, qui gardent les fermes. Les chiens de troupeau...
Les chiens de berger
se développent, leur apogée, c'est assez récent, c'est 19e siècle.
Et il y a les chiens aussi qui vont servir, qui vont faire le boulot des chevaux, avant que les chevaux le fassent. On va utiliser leur force motrice, à quelle époque ça ?
Alors, c'est 18e, 19e, jusqu'au milieu du 20e siècle. Ça coûte moins cher d'avoir un chien, parce que d'abord ça ne s'achète pas.
Il faut pas un chihuahua alors. Pas un chihuahua,
mais un bon chien matin peut tirer une charrette d'une centaine de kilos. Et donc ça coûte bien moins cher qu'un cheval ou qu'un âne.
Et ça on les a utilisés comment ces chiens
À peu près deux siècles, on les attelait à des charrettes. C'était beaucoup les artisans, les maraîchers. Les maraîchers par exemple autour des villes amenaient leur production avec des chiens à charrettes.
Éric Baratet, pourquoi le chien aujourd'hui est de nouveau sacré? Par exemple en France, on ne fait pas travailler nos chiens. Alors les chiens d'aveugle, c'est des compagnons, ce ne sont pas des esclaves, ce sont de gentils compagnons.
Oui, vous avez raison. De nos jours, on ne supporte le travail des chiens que s'il y a une véritable collaboration. Un chien d'aveugle, chien par exemple pour la zoothérapie, pour aider les personnes malades, etc. Et ça date en fait, ça commence au 15e, 17e siècle. C'est l'aristocratie qui réinvente le chien de compagnie, qui avait été oublié après la chute de l'Empire romain. Et elle réinvente cela et petit à petit, ce modèle va se diffuser dans la société, dans la bourgeoisie au 19e siècle et dans toutes les classes sociales au 20e.
Éric Baratet, on va prendre le temps, de raconter ça, les chiens d'agrément. Il y aura peut-être des rubans et du parfum aussi. Ces chiens qui vont plaire à ces messieurs et ces mesdames. Exactement. À tout de suite sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On est les frères des gouttières, abandonnés par nos propriétaires et bien décidés à se manger.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous empestez la domestication à pleine truffe.
Non, attendez un peu. Nous, chiens domestiques, on n'a rien de domestique.
Sur RTL.
On hait les humains.
Ouais.
Et nous, faut pas nous parler des bipèdes.
On a tous les deux brûlé nos colliers, carrément.
Ah ouais, brûlés, réduits en cendres.
Et on a tué nos maîtres.
Ouais, une minute. Tu vas peut-être un peu loin, là, non ?
Comme des bêtes, extrait du film Comme des bêtes. Et donc cette question de la domestication raconte l'histoire des animaux et des hommes, de la préhistoire à nos jours. C'est le thème de cette curiosité et aussi du numéro spécial du magazine Historia en partenariat avec RTL. Éric Baratet, je rappelle que vous êtes historien et que vous avez participé à ce numéro. Et donc on continue de raconter l'histoire du chien. On a appris grâce à vous que le loup s'est domestiqué et donc est devenu le chien il y a à peu près 35 000 ans. Et puis il y a eu plein d'étapes, et notamment cette étape où l'aristocratie redonne ses lettres de noblesse aux chiens. Ça démarre, je crois, avec la chasse à cour, c'est ça ?
Oui. Et puis, alors ça, c'est du côté des hommes, et puis du côté des femmes, ce sont les petits chiens de compagnie. Oui. Mais on va chercher des chiens extérieurs, des chiens exotiques. Il ne faut pas que les chiens de compagnie de l'époque ressemblent aux chiens de rue.
Alors, on est à quelle époque et qu'est-ce qu'on va chercher comme type de chien ?
14e et 16e siècle, par exemple, des lévriers.
Oui. Ça vient d'où, un lévrier ?
De Perse, du Moyen-Orient. Ouais. Et donc, ces chiens sont totalement inconnus à l'époque en Occident. Ça permet de garder la distinction sociale. On a un chien qui est extrêmement rare, extrêmement cher.
On se singularise.
On se singularise et ça n'a rien à voir avec le chien errant. On fait la même chose pour les chats, d'ailleurs.
Ouais. Et Sidonie disait tout à l'heure des rubans, du parfum. Ça veut dire que...
Des chiens d'agrément.
Ces femmes aristocrates s'occupent vraiment bien de leur toutou.
Bien sûr, au XVIIIe siècle, par exemple, il y a des petits canapés pour les chiens pour qu'ils puissent suivre les conversations au salon. Il y a des niches, etc. La mode, évidemment, suit. Hein, parce qu'à partir du moment où on intègre ces chiens dans la famille et dans le monde humain, eh bien, la mode canine suit évidemment la mode humaine.
Et des représentations. On parlait tout à l'heure de l'époque de l'Antiquité romaine et de la représentation des animaux de compagnie, notamment sur des stèles, puisqu'ils étaient inhumés avec leur maître, ou en tout cas, ils étaient traités comme tels en étant inhumés. À cette époque au Moyen-Âge, il y a des représentations, des tableaux de chiens de personnalités célèbres.
À partir de la fin du Moyen-Âge, et puis tout le long de l'époque moderne, jusqu'au XVIIIe siècle, l'aristocratie se fait représenter avec ses chiens de luxe, ou ses chats de luxe, ou ses chevaux de luxe. Oui. Et c'est un élément du paraître aristocratique. Hein. C'est un élément du privilège. À partir du XVIIIe siècle, on les représente, mais c'est pour montrer la sensibilité du chien. Hein, l'émotion du chien, le chien qui appartient bien à la famille. hein, qui est un membre de la famille et qui, par exemple, il y a un célèbre tableau du 19e siècle, on voit un chien venir réconforter un enfant qui a été mis au piquet en bas de l'escalier. Donc c'est ça qu'on aime.
Éric Baratet, il y a un autre animal qui peut consoler les enfants aujourd'hui, c'est le poisson rouge. Alors ce poisson rouge, c'est une drôle d'histoire aussi.
Ça console les enfants.
Ben oui, il y en a certains qui aiment bien avoir des poissons rouges qui tournent en rond comme ça dans leur bocal, dans leur chambre, ouais, les pauvres. C'est quoi sa terre d'origine au poisson rouge ?
Alors, le poisson rouge, déjà, c'est le premier animal de compagnie en Occident, hein, puisqu'il y en a, on l'estime qu'il y en a entre 20 et 30 millions rien qu'en France, bien plus que des chiens ou des chats. Mmh. Hein. Alors, en fait, ils viennent de Chine. C'est à partir du premier millénaire après Jésus-Christ qu'on s'est mis à domestiquer, sélectionner, on va dire plutôt, des poissons chinois qui étaient à l'époque gris doré. Et puis, par sélection, on va les transformer petit à petit en poissons rouges.
Pourquoi le rouge est important dans les dynasties chinoises qui mettent ce poisson à l'honneur ?
Eh ben parce que c'est tout à fait rare dans le monde des poissons. Donc là aussi, c'est avoir un poisson tout à fait exceptionnel.
Il n'est pas dans un bocal en Chine,
alors, pas
le poisson
encore.
À l'époque.
Au départ, on le met dans des bassins. Et le premier bocal apparaît au XVIIe siècle, c'est fin XVIe, début XVIIe siècle. C'est un empereur chinois. Donc là aussi, c'est tout à fait extraordinaire de mettre un poisson dans un bocal, ne serait-ce que parce qu'il faut avoir le bocal en verre.
Mais oui, il faut déjà savoir le fabriquer.
Voilà, et c'est extrêmement précieux.
Mmh. Alors évidemment, ça donne envie aux Français, j'imagine, d'avoir des poissons. Il arrive quand ce poisson rouge en France ?
Alors, XVIIIe siècle, essentiellement, c'est la mode de l'exotisme. XVIIIe siècle, XVIIe siècle, c'est l'époque où on va importer énormément d'animaux exotiques, des perroquets, des chimpanzés, etc. C'est l'aristocratie qui les achète et qui s'en sert d'animal de compagnie, et les poissons en font office. Beaucoup d'oiseaux, des jaguars, des petits lions, à Versailles, à la fin du XVIIe siècle, certaines grandes aristocrates se promènent avec un lionceau en laisse. Hein.
Et donc un poisson rouge.
Attention au coup de griffe. Et le poisson rouge va faire son entrée aussi à la cour de Louis XIV. Vous allez nous raconter ça dans un court instant. Et puis, on va aussi raconter l'histoire d'un rat. Parce que oui, le rat a aussi été un animal de compagnie, mais alors pas n'importe quel rat.
Celui de Roosevelt.
Voilà, le rat des Roosevelt. Bienvenue à
Jonathan?
La Maison Blanche. Jonathan.
Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous.
RTL.
La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est ça ton intelligence remarquable ?
La curiosité
10 minutes !
Est un vilain défaut.
Moi je parle à mon téléphone ! En 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poule !
Romain Fraissiné, les animaux sont intelligents et oui, ils sont épatants. Et d'ailleurs, comment les humains les ont apprivoisés, c'est le thème passionnant du numéro spécial d'Historien en partenariat avec RTL. Et c'est l'historien Éric Baratet qui a participé à ce numéro, qui nous raconte cette saga. On parlait du poisson rouge qui vient d'Asie, qui vient de Chine et qui était gris au début, gris doré, et qui est devenu rouge parce qu'il était, enfin, qu'on a sélectionné. Donc, c'est le poisson rouge qui est resté dans nos cultures et qui est arrivé en France avec Versailles. De quelle manière il fait son entrée ?
Il arrive comme espèce exotique. C'est la marquise de Pompadour qui le fait venir des Pays-Bas. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire à l'époque, à cause justement du dispositif, c'est-à-dire le bocal, les aquariums, c'est quelque chose d'absolument inconnu à l'époque. Hein. Et c'est ça, en fait, qui fait l'étrangeté et la valeur du poisson rouge. En plus, on connaît très mal les poissons à l'époque, les fonds marins ne sont évidemment pas connus. Donc, c'est une véritable révélation. On a l'impression de découvrir un monde nouveau. Et le poisson rouge incarne cette nouveauté.
Éric Baratet, on va maintenant découvrir une autre histoire assez incroyable qui nous embarque vers les États-Unis. Nous voici à la Maison Blanche, époque Roosevelt, avec un rat. Un rat qui est un animal de compagnie. Racontez-nous ça.
Oui, alors c'est tout à fait fréquent. Alors, il y a le cas de Roosevelt, mais c'est une mode qui se développe en Occident dans la seconde moitié du 19e siècle. Ouais. Mais à partir d'une espèce particulière de rat, hein, c'est le rat blanc de Norvège. Alors on a la couleur blanche, évidemment. C'est la même chose pour les chats. On a préféré, l'aristocratie voulait des chats blancs pour éviter le chat noir des
loups. Ouais.
Porte malheur. Et ben, c'est la même chose pour les rats. Et Théophile Gautier, par exemple, au milieu du 19e siècle, il a à Neuilly, justement, dans sa maison.
Se trouvent les studios d'RTL,
Il a des rats blancs, hein, il achète un couple de rats blancs qui lui fait jusqu'à une trentaine de rats.
Donc ça n'écœure pas les rats à l'époque, à la moitié du 19e siècle.
Cela n'écœure pas, le rat blanc. Ouais. Hein? Alors les autres rats, c'est différent.
Donc c'est un rat blanc qu'a Théodore Roosevelt et qui va vivre à la Maison Blanche.
Oui, c'est un style de presque d'animal de compagnie. En plus, le rat est très intelligent et on peut le sociabiliser très facilement.
Il fait des câlins, le rat.
Tout à fait. Et ouais. Théophile Gautier raconte qu'il s'entend très bien avec son chat. Ces rats s'entendent très bien avec son chat.
C'était avant Tom et Jerry, donc
exactement.
Ça n'avait pas encore été inventé. Mais justement, qu'est-ce qui va changer l'image et finalement le destin de ces rats de compagnie? C'est quoi? C'est la peste peut-être? Les découvertes autour de la peste?
C'est une toute petite minorité, ces rats-là. Hein, l'énorme majorité, sont les rats communs. Mmh. Il y a eu deux types de rats. L'Occident a vu d'abord arriver ce qu'on appelle le rat noir, qui est arrivé au Xe siècle. Il y en avait sans doute avant, mais disons, il se développe à partir du Xe siècle, sans doute avec le développement de l'agriculture. Mmh. Donc plus de choses à manger. Et c'est lui qui véhicule la peste. Hein, c'est-à-dire qu'il véhicule, en fait, il porte des puces qui elles-mêmes portent le bacille de la peste. Hein. Et à partir du XVIIIe siècle, ce rat noir va se faire remplacer par le rat gris, le surmulot, qui arrive, alors lui, on sait quand est-ce qu'il arrive, en 1727, lors de l'hiver 1727, ces rats franchissent la Volga gelée par millions. C'est une véritable déferlante, on a des textes et ils vont petit à petit conquérir toute l'Europe et ils arrivent en France. Et en France, ils vont chasser les rats noirs et les rats noirs vont être obligés de partir dans les campagnes ou dans les greniers. Et le rat gris, lui, s'installe dans les égouts, dans les caves, etc. etc.
Et c'est celui qu'on a encore aujourd'hui à Paris.
Voilà, et c'est un rat assez agressif, très intelligent, qui vit bien en bande. Ce qui fait que, par exemple, les chats vont devenir inutiles. Le chat sait traquer la souris et le rat noir, mais le rat gris, il n'y arrive pas. On a même des textes qui racontent que des chats se font manger par des bandes de rats de surmulots. Donc ça change tout.
Autre histoire d'amitié incroyable à raconter, c'est celle des humains et des pigeons. À quelle époque de notre histoire les humains vont se rendre compte que les pigeons sont d'incroyables voyageurs? C'est l'histoire qu'on va raconter dans un instant. Et puis dans la seconde partie de l'émission, un mystère qu'on va essayer de résoudre.
Mais oui, le roi Arthur, une légende ou un roi qui a vraiment existé? La question est fascinante. Restez avec nous sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et curieux de nos relations avec les animaux dans l'histoire. Et c'est l'excellent historien Éric Baraté qui nous raconte cette histoire. Vous êtes spécialiste des animaux, de l'histoire des animaux. Et vous publiez Biographies animales. C'est aux éditions du Seuil. On parlait du pigeon voyageur. À quelle époque, à quel moment de notre histoire, on s'est rendu compte que c'était un partenaire incroyable? C'est un peu l'ancêtre du SMS, c'est ça le pigeon voyageur?
Si on peut dire, oui. Oh, dès l'Antiquité. Parce qu'en fait, c'est fondé sur la très forte affection dans le couple entre le mâle et la femelle, et avec les petits, ce qui fait que si vous séparez les deux adultes, celui qui a été séparé voudra revenir dans sa famille.
Mais même à des kilomètres et des kilomètres.
Alors ça s'apprend. Ouais. Ça ne leur est pas du tout instinctif et inné. Hein. Il faut petit à petit leur apprendre, les séparer de plus en plus loin, etc. Et il faut que le pigeon apprenne à utiliser son compas magnétique, son compas solaire, pour qu'il puisse cartographier, se repérer et pouvoir se rediriger vers l'endroit où il veut aller et qui est l'endroit qui est pour lui son gîte.
Et dans ce numéro spécial du magazine Historia, vous racontez tous les animaux qui ont été utilisés en temps de guerre. C'est le cas aussi du pigeon pendant la Première Guerre mondiale. Quel rôle a-t-il joué?
Très important. En fait, le pigeon passait là où le téléphone ne marchait plus, là où les hommes ne pouvaient plus passer, là où les chiens n'arrivaient plus à passer. Lui pouvait passer parce que c'est une petite... il est de petite taille, donc pour l'abattre, c'est difficile. Puis il vole très vite. Et donc, il a joué un rôle extrêmement important, des deux côtés d'ailleurs. Hein. Mais aussi très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Les Anglais ont utilisé plus de pigeons dans la Seconde Guerre mondiale que dans la Première, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Éric Baraté, encore énormément d'histoires à découvrir, notamment dans votre biographie Animales aux éditions du Seuil et aussi dans ce numéro spécial d'Historia mars-avril. Vous découvrez aussi la vache, le cochon, la chauve-souris, l'éléphant, le lion, le loup, le coq, le corbeau et d'autres encore.
On va vous faire revenir, Éric Baraté, s'il y a tant d'autres histoires. C'était passionnant, merci beaucoup.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.